Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
68% des Français juifs disent avoir subi des moqueries dans leur vie. 20% ont dit avoir été victimes d'agressions physiques. En 2022, la France doit toujours lutter contre l'antisémitisme.
On commente ces résultats avec les deux auteurs à l'origine de cette étude, Dominique Régnier et Simone Rodan-Benzaken, qui seront dans un instant nos invités. Mohamed, votre story du jour.
Il s'appelait René Robert, c'est un photographe célèbre. Il est tombé dans la rue à Paris la semaine dernière. Il est resté 9 heures au sol, dans le froid, dans l'indifférence générale avant de mourir. Je vous raconte cette histoire ce soir.
Patrick, votre édito.
Le scandale du groupe Orpea met la lumière sur la situation du grand âge et des EHPAD. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
On commence ça avec notre invité, Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Pourquoi est-ce que plus d'un tiers des agents EDF étaient en grève aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que la direction porte un regard bienveillant sur ce mouvement? La réponse dans le 5 sur 5.
Et Pierre, dans votre œil ce soir.
On jettera un coup d'œil ensemble sur les nominations pour la cérémonie des Césars qui se déroulera le 25 février prochain et qui montre ces nominations combien l'année 2021 a été cinématographiquement extrêmement riche et brillante.
On en parle avec quelqu'un qui a été césarisé, Michel Boujna, César pour Trois hommes et un couffin, mais c'est Molière qu'il joue, c'est la première fois qu'il s'y attaque. L'avare, Harpagon, il parle merveilleusement bien de ce personnage avare et surtout méchant, odieux, mais humain, c'est ce qu'il nous explique tout à l'heure au moment du dîner, un dîner préparé ce soir par notre chef breton monté à Paris, Camille Saint-Bleu, de ça. L'araignée de mer ce soir.
C'est ça, un produit que j'adore, breton, donc l'araignée de Roscoff, qu'on va juste venir décortiquer, assaisonner, servir avec un bouillon anisé.
Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas allergiques aux fruits de mer, ce qui est le cas de notre invité, Martin Hirsch. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Le scandale des EHPAD géré par le groupe Orpea et révélé par le livre Les Fossoyeurs remet la lumière sur un sujet central mais trop peu abordé dans le débat public.
Oui, c'est une question qui concerne tout le monde parce que, sauf accident, nous sommes tous promis à devenir vieux et d'ici là à voir vieillir nos parents et nos grands-parents et que personne ne peut se résoudre à voir finir leur vie dans des conditions épouvantables comme ça vient d'être rapporté. Deux chiffres d'abord, à la fin de la décennie et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et en 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, les plus de 85 ans seront trois fois plus nombreux qu'aujourd'hui, soit près de 5 millions de personnes. Les Français vivent plus longtemps que leurs voisins européens, mais en moins bonne santé. C'est ici que l'espérance de vie à 65 ans est la plus élevée, mais aussi que les incapacités sont les plus nombreuses. Voilà les données de ce vieillissement massif qui devrait être regardé comme un enjeu majeur. Or, on ne parle des personnes âgées en perte d'autonomie que lors des drames ou de scandales. Rappelons l'hécatombe de la première vague de Covid dans les EHPAD. Sur les 26 000 morts du printemps 2020, 12 000, près de la moitié, vivaient en EHPAD.
Les problèmes sont pourtant identifiés depuis longtemps.
Oui, à commencer par le financement de dépenses de protection sociale. Encore, je vais citer des chiffres. Nos dépenses de protection sociale sont les plus élevées d'Europe. La France est championne en matière de santé et de retraite, mais pas pour les dépenses liées au grand âge. Là, on est loin derrière des pays comme la Hollande, la Suède ou le Danemark, malgré un rattrapage important en investissement depuis 2012. Or, nous sommes aussi un pays qui envoie beaucoup ses seniors en EHPAD. 20% des plus de 85 ans aujourd'hui, c'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Et tout le reste en découle. Manque de moyens, manque de personnel, manque de temps, des salariés débordés, épuisés et mal payés. Le plus plus souvent en temps partiel, un nombre de candidatures qui chutent au concours d'entrée. Les deux tiers des EHPAD avaient, il y a quelques mois, des postes non pourvus depuis plus de 6 mois, d'où ces résidents laissés à l'abandon ou traités à la va-vite.
Il n'y a pas de normes pour le taux d'encadrement dans les EHPAD.
Non, et c'est pourtant le critère clé, celui qui mesure la présence humaine auprès des résidents. En moyenne, aujourd'hui, moins de 6 personnes pour 10 résidents. La défenseure des droits, Claire Hédon, estime avec d'autres qu'il faudrait monter à 8.
Le ratio de personnel que nous demandons est de 8 personnels pour 10 résidents. Sachez qu'en Allemagne, c'est 10 pour 10. Donc la demande de 8 sur 10 n'a rien d'extravagant. Nous ne résoudrons pas les problèmes de maltraitance tant que nous n'aurons pas ce ratio.
Alors elle a raison, mais ce taux d'encadrement est une moyenne. Et quand on regarde par type d'établissement, eh bien c'est édifiant. Encadrement dans les EHPAD publics, 68 salariés pour 100 résidents. Dans les EHPAD privés à but lucratif, comme le groupe Orpea, 56. 12 points d'écart entre le privé et le public. Il y a vraiment, à la suite de la publication des Fossoyeurs, il y a vraiment des questions à se poser sur ces structures privées qui ont maintenant capté 20% du marché des maisons de retraite en étant plus chères, avec moins de personnel et qui sont devenues des machines à cash.
Martin Hirsch, directeur général de la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, également président de l'Institut de l'engagement. À ce titre, vous venez de proposer plusieurs pistes pour rebooster notre démocratie avec des propositions qui peuvent surprendre, mais le scandale de ces EHPAD privés, ces machines à cash, ça vous étonne ? Les révélations faites notamment dans le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs ?
J'ai pas lu le livre.
Mais ces résidents rationnés, on compte leurs biscottes, on ne leur permet pas de se changer, ils ont des une hygiène de vie déplorable, ils sont laissés à l'abandon.
Donc j'ai pas lu le livre, mais effectivement, on a vu ces dernières années que le vieillage était devenu un business. Et on voit une première différence. Patrick Cohen disait qu'il prenait que des patients de familles plus aisées. Effectivement, il y a un certain nombre d'établissements qui sont fermés à une partie de la population. Donc c'est un domaine dans lequel il y a aujourd'hui des inégalités extrêmement fortes. Et ensuite, il y a une opacité. Alors c'est pour ça que ce livre a de l'intérêt et qu'on a l'impression de déchirer le voile. Je ne crois pas qu'il y ait d'enquête de satisfaction qui soit réalisée auprès des familles et qui soit publique et qui permette de comparer, de corriger le tir. Je ne crois pas qu'il y ait de données qui soient transmises sur les comptes de ces établissements. Quand je vois les contrôles auxquels on est soumis, nous, et la transparence qu'on doit faire, et l'opacité qui semble être le cas pour un certain nombre, et ce que disent celles et ceux qui essayent de contrôler ces établissements, il y a une certaine marge de progrès, effectivement, pour éviter
ces scandales. Ça veut dire que c'est la jungle, quoi. Il n'y a pas de contrôle.
Il y a des contrôles.
Mais pas suffisants.
Il y a des contrôles, il y a une double tutelle, on nous l'expliquait hier, il y a une double tutelle à la fois des agences régionales de santé et des départements. Ce n'est pas forcément très simple non plus dans les structures.
Oui, il y a aujourd'hui des contrôles, mais les contrôles ne sont pas extrêmement puissants quand le taux de retour sur investissement est irréalisable par rapport à ce qu'on demande. Donc c'est effectivement... des investisseurs, parce que c'est pas la jungle, mais c'est effectivement, je pense, un domaine dans lequel le capitalisme le plus dur, c'est trouver un Eldorado. Mmh. Et on peut pas dire que les personnes âgées soient faites pour nourrir les Eldorado.
Et comble évidemment un besoin, ce que disent les groupes privés, c'est que s'ils n'étaient pas là, il manquerait 130 000 places en maison de retraite, parce qu'on n'en a pas construit assez sur fonds publics.
Oui, absolument, mais ça ne... justifie pas d'aller chercher des rendements de capitaux sur le dos des personnes âgées.
Et quand Fabien Roussel, par exemple, le candidat communiste à l'élection présidentielle, propose que toute gestion d'un EHPAD soit à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on n'y recherche pas à faire du profit, est-ce que c'est réaliste? Mais on voit bien à quel point le business n'est pas compatible avec une prise en charge correcte du grand âge.
Alors il peut l'être, quoi. En tout cas,
c'est pas incompatible.
Oui,
selon vous.
Il y a des groupes.
C'est pas incompatible, ça doit être strictement régulé. C'est incompatible avec chercher des profits massifs, quoi. Ces dernières années, il y a eu un mouvement où les investisseurs se disaient s'il y a un domaine où je suis sûr de pouvoir aller gagner le plus d'argent, c'est dans ce domaine-là, et on voit ce que ça peut donner.
Pierre.
Un nouveau record a été battu hier sur le nombre de contaminations au Covid, 501 635 cas détectés, je ne vous apprends pas ce chiffre. Le nombre d'hospitalisations pour cause de Covid est repassé, lui, au-dessus de 30 000, c'est la première fois depuis fin 2020. Aujourd'hui, à la sortie du Conseil des ministres, voilà comment Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement résumait la situation.
Le nombre d'hospitalisations hors réanimation continue de croître et dépasse les 30 000 personnes hospitalisées, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis longtemps. Alors ce que nous disent les scientifiques, ce que nous montrent les chiffres, ce qu'augure la baisse des cas en Île-de-France, c'est que nous pouvons espérer voir reculer l'épidémie dans les semaines qui viennent. C'est surtout que l'épidémie a changé de visage, je le disais, et que les scientifiques nous disent que notre hôpital devrait tenir.
Vous êtes d'accord avec Gabriel Attal, ça va tenir l'hôpital ?
Il faut voir ce qu'on a réussi à tenir jusqu'à présent. J'avais prédit un mois de janvier agité, il a été agité. Je n'avais pas dit que le bateau allait sombrer, il n'a pas sombré. On est en activité maximum, parce qu'à côté de ces patients Covid nombreux, on a beaucoup d'autres patients. C'est les hôpitaux sont pleins avec ces difficultés. Quand il y a 500 000 contaminations, parmi les 500 000 contaminations, il y a des contaminations de soignants. La semaine dernière, on avait 2500 de nos agents qui étaient positifs. Donc c'est l'ensemble de ces difficultés. Je crois que les efforts qui sont réalisés montrent que ça tient au prix de ces tensions dont on parle, qui sont réelles. C'est vraiment une épreuve. Le fait que les agents aient parfois envie de partir, aient du mal à rentrer pour revenir travailler à l'hôpital, c'est que les tensions sont majeures.
Vous avez cessé de déprogrammer des interventions hors Covid ou vous avez commencé à reprogrammer à la PHP ?
Oui, aujourd'hui, on doit avoir, je dirais, 3/4 de nos blocs opératoires qui fonctionnent chaque semaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du décalage, y compris d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont un Covid au passage. Vous savez, on les teste avant de les emmener au bloc opératoire ou de les prendre pour une journée d'hospitalisation, qu'on est obligé de reprogrammer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un casse-tête compliqué. Mais ce qu'on peut dire, et moi j'ai eu il y a quelques jours les chiffres de l'année 2021, la chose qui est vraiment étonnante et qui montre la mobilisation, c'est que quand on prend l'ensemble de l'année, finalement, on a fait 6% de chirurgie en moins que l'année 2019 avant le Covid. Ce qui n'est pas beaucoup, ce qui montre qu'on a réussi à... On a quand même eu 3 grosses vagues pendant l'année 2021. On a réussi à faire presque autant d'interventions chirurgicales. Mais pour autant... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites à la date qui était prévue. Il y a eu beaucoup de décalages
de 15 jours, de 3 semaines. Pour les patients, c'est pour l'instant...
Si on décide de programmer un patient un jour, c'est qu'on n'a pas envie de le programmer 3 semaines après. Donc il y a effectivement, c'est très difficile à calculer, mais il n'y a pas eu ce phénomène. On ne se retrouve pas avec une opération sur 3 qui n'aurait pas été faite et des rattrapages gigantesques à réaliser. Et ça, c'est un petit exploit de ces équipes.
Il n'empêche les déprogrammations d'interventions chirurgicales, beaucoup les ont trouvées injuste, voire scandaleux. Sur le thème, les vaccinés qui jouent le jeu doivent laisser leur place à l'hôpital à des non-vaccinés taxés d'individualisme dans le meilleur des cas. Vous n'imaginez pas de ne pas accueillir les non-vaccinés à l'hôpital, mais vous vous demandez, vous Martin Hirsch, s'ils ne devraient pas payer leurs frais de santé, que les soins ne soient pas gratuits pour eux parce qu'ils ont refusé une vaccination qui, elle, était gratuite. Vous posez réellement cette question-là ?
J'essaie de concilier. On entend ces deux choses-là. Effectivement, autant en France, contrairement, je parlais avec mes collègues du Pays-Bas pour lesquels ils ont fait des sortes de consignes du ministère pour dire dans quel cas il fallait rentrer en réanimation et pas rentrer en réanimation, des choses strictes, carrées. Donc autant là-dessus, il n'y a pas eu tellement de débats. Les professionnels ont organisé les choses avec leurs propres critères médicaux. Autant on a senti ces derniers mois un débat, effectivement, ceux qui suivaient des patients avec le cancer, auxquels on disait, mais ton patient, il ne pourra aller à la table d'opération que dans 3 semaines. Et pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de patients à prendre en charge. Là, ça suscitait des tensions. Alors, il y a un critère, effectivement, je ne pense qu'il ne faut jamais rentrer dans on choisit les patients sur d'autres critères que des critères médicaux et dire tu t'es pas bien comporté il y a un jour, il y a une semaine, il y a un mois ou il y a 3 mois, et du coup, tu vas le faire. Ça, c'est anti-éthique absolu. En revanche, je trouve au moins que cette discussion sur est-ce que quand la vaccination est gratuite et qu'elle est d'intérêt collectif et qu'elle a un impact sur les autres, est-ce qu'on doit avoir le refus de la vaccination gratuite, la demande des soins gratuits, de hurler quand on met des passes vaccinaux, etc. Je pense qu'il y a un moment, ça peut donner une sorte d'incohérence.
Il y a
un moment, il faut le réconcilier. Ce que je disais dans cette tribune, c'est que la solidarité, c'est fabuleux. Et on y tient.
Et parfois, elle est mise à mal parce que quand il y a, ce que je peux dire, des passagers clandestins, il y a une partie de la population qui a envie de remettre en cause la solidarité. Moi, je n'ai pas envie qu'on remette en cause la solidarité, mais s'il y a un peu de responsabilité dedans, ce n'est pas plus absurde que cela. Au contraire, voilà, mais c'est des choses, je trouve,
à débattre. C'est des pistes de réflexion. Mais le maire de Nice, Christian Estrosi, lui, il a proposé de supprimer les allocations chômage aux non-vaccinés. On ne peut pas comparer votre piste de réflexion avec ce genre de proposition ?
Non.
Parce qu'il ne s'agit pas de couper les remboursements de prêts ou de priver de sécurité sociale les non-vaccinés. Il ne s'agit pas de ça.
Non, il s'agit je pense que cette question ne peut pas rester une question sous la table où les gens, quand les uns et les autres ont des arrière-pensées et que le débat n'est pas ouvert sur une question, ça conduit à aller vers le simplisme. Donc,
voir le populisme.
Hein. Voir le populisme, absolument, qui est la manière de nier la réalité. Se poser la question de savoir si, en général, le fait de... quand une prévention, un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile, y renoncer, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ? Ou est-ce qu'effectivement, on allie le fait qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences, alors qu'il va y avoir des conséquences sur les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien.
En tout cas, on jouait le jeu jusque-là.
Est-ce qu'on ne risque pas quand même d'aller trop loin si on franchit cette barrière ? Parce que pourquoi est-ce qu'après, un fumeur ne paierait pas ses frais cas de cancer du poumon ?
Vous avez mille fois raison. Alors, c'est pour ça que... Je trouve que le débat est délicat. Je trouve qu'il y a une très, très grande différence et qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un sur un comportement, une addiction. Et je redis, le système de soins est ouvert à tout le monde. Mais je fais cette différence.
On peut reconnaître
qu'un système de dépistage, on doit tous les 5 ans le faire. Est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement si on le néglige que quelqu'un qui ne le néglige pas ? Voilà, questions montrent, et vos mots montrent que la question n'est pas évidente. Si je pose cette question-là, c'est que je ne voudrais pas qu'un jour, on se dise les dépenses de santé explosent parce qu'il y a toute une partie de comportement dit irresponsable, donc, qui remettent en cause la solidarité de tous. C'est pour ça que dans cette tribune, je dis, je reviens à la source. C'est quoi la belle source ? C'est le Conseil national de résistance qui institue un système d'État-providence, etc., et qui aujourd'hui doit garder ces mêmes principes. Donc, on ne ferme la porte de l'hôpital et du soin à personne, mais d'être allié avec la responsabilité qui permet à tout le monde d'en bénéficier.
Vous faites d'autres propositions ? Vous voulez différencier les revenus des fonctionnaires selon les territoires, car le coût de la vie n'est pas le même partout. Vous voulez aussi permettre aux contribuables d'affecter une fraction de leurs impôts à des causes. Et puis, une autre de vos propositions, c'est d'instituer un système d'amende proportionnel aux revenus. Alors, ça existe déjà dans d'autres pays, la Finlande notamment. Est-ce que ça veut dire qu'avec vous, on met fin à l'égalité ? On va vers la proportionnalité ?
Au contraire, moi, je trouve la vraie égalité. L'exemple que je donne, c'est quoi ? Moi, je me souviens, pendant le premier confinement, d'infirmières et d'aides-soignantes qui m'écrivaient éplorées parce qu'elles avaient oublié de mettre leur masque sur le quai du métro, 75 euros. Elles m'expliquaient, c'est une journée de salaire qu'on va faire. Et je leur disais, mais ce n'est pas moi qui vais vous retirer l'amende. Désolé pour vous, mais effectivement, c'est une journée de salaire. Et pendant le même temps, on entendait que certains faisaient le calcul de dire, effectivement, on s'est confiné, si jamais je vais dans ma résidence secondaire, au pire, j'aurai cette amende de 75 euros ou de 135 euros sans aucune conséquence. Est-ce que c'est ça, complètement, l'égalité ? Ou de se dire, à chaque fois, ça pourrait être, je ne sais pas quoi, 2% de mon revenu mensuel. Et ça, je trouve ça plus égal. Tout le raisonnement, c'est de se dire, parce que, effectivement, j'ai essayé de tirer ce fil de cette contradiction que l'on vit. On est confronté à des tas d'enjeux collectifs majeurs. Le réchauffement climatique, le maintien de la solidarité. On a des tas d'enjeux sur lesquels la réponse ne peut être collective. Or, les individus qui ne se retrouvent pas dans les réponses ont envie de se retirer, ils n'ont pas envie d'adhérer à des enjeux collectifs. Donc je dis, comment est-ce qu'on peut conjuguer le besoin d'un fort collectif avec la reconnaissance des différences ? Alors vous citiez Principe d'égalité et salaire, est-ce que vous trouvez qu'elle est sur un pied d'égalité une aide-soignante, une infirmière qui vit à Paris avec un salaire de 2000 euros et un coût du logement très élevé, et une autre qui vit dans une ville de province où le coût du logement est 50% moins élevé alors qu'elle a le même salaire. Elles ne vivent pas la même chose, elles ne vivent pas sur un pied d'égalité, alors qu'elles vont avoir les mêmes difficultés à travailler et les mêmes contraintes.
Ça peut se jouer par des primes d'aide de logement, pas forcément sur le salaire. Parce que c'est très compliqué, j'imagine, à calculer.
C'est pas très compliqué à calculer. On sait calculer la différence du coût de la vie dans les différentes métropoles et dans les différentes régions. D'autres pays le font, et le font très, très facilement, sans que ça pose de problème. Je dis la même chose, le revenu de solidarité active, c'est pas la même chose de vivre avec le revenu de solidarité active au cœur de Paris et dans un département rural.
Ce sont des propositions qui pourraient très bien être prises par l'un des candidats à l'élection présidentielle.
Et qui peuvent être reprises. Moi, je ne mets sur la table que des idées libres de droit. Voilà.
Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, votre story du jour, c'est celle du photographe René Robert, mort de froid à Paris.
René Robert était un photographe connu dans le monde entier pour ses clichés de flamenco, un homme qui arrivait à capter les détails des visages heureux ou émus des musiciens et danseurs. Artiste reconnu, son travail était exposé dans plusieurs galeries internationales. La semaine dernière, le photographe de 84 ans se baladait dans les rues de Paris après avoir dîné au restaurant. Il chute au niveau de la rue de Turbigo, en plein centre de Paris. Peut-être victime d'un malaise et se retrouve au sol dans l'incapacité de se relever. Pendant 9 heures, René Robert va rester dans le froid, dans l'indifférence des passants, avant qu'un sans-abri appelle les secours vers 6 heures du matin. Trop tard, transporté aux urgences en état d'hypothermie extrême, il décédera de sa nuit passée dehors. Pour son ami, l'éditorialiste Michel Monpontet de France Info, l'émotion est toujours présente.
La première chose, ce n'est même pas ni la tristesse ni la douleur, ça a été l'incompréhension qui m'a d'abord frappé. Me dire comment peut-on mourir comme ça? Comment est-il possible qu'un tel scénario aussi atroce, aussi inhumain, en 2021 soit possible dans une ville comme Paris, surtout dans un quartier aussi fréquenté que la rue de Turbigo et le quartier de la République?
René Robert a trouvé la mort près du quartier de République à Paris, un quartier commerçant et passant. Aucun piéton passé à côté du corps du photographe n'a pris le temps de savoir comment il allait ou même d'appeler les secours face à cet octogénaire inconscient allongé au sol. Comment on est arrivé là? C'est la question que se pose son ami Michel Monpontet, l'éditorialiste avec ce fait divers dramatique, mais en garde contre l'égoïsme et l'ignorance face aux difficultés des autres.
Si j'ai fait cette publication qui a eu les répercussions que vous savez, c'est aussi, au-delà du drame personnel, du drame artistique, du drame humain, c'est pour rappeler et appeler les gens à dire avec moi, on ne peut plus détourner la tête face à des gens qui sont par terre, dans le grand dénuement, dans la misère, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Il faut aussi prendre quelques secondes, s'arrêter et demander cette phrase simple. Vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose?
René Robert participait à plusieurs maraudes dans son quartier pour donner à manger aux sans domicile fixe. Sa femme aurait identifié l'homme qui a alerté les secours, un SDF qui connaissait bien la famille, puisque le photographe n'hésitait pas à lui donner des vêtements quand il le croisait. Une rencontre entre la femme de René Robert et le sans domicile fixe est prévue bientôt. Martin Hirsch, vous avez été président de Emmaüs en 2008, alors que vous étiez à l'époque haut-commissaire aux solidarités et à la pauvreté, vous parliez d'une société égoïste, individualiste, déjà à l'époque. Ça n'a pas changé. 13 ans après, ça s'est peut-être même renforcé.
Alors, j'étais président d'Emmaüs avant d'être
2005,
au gouvernement.
Oui, mais c'est pas grave.
Mais alors, il y a pas simplement un égoïsme, hein, y a toute une partie de la population qui est au contraire très généreuse. Mais quelquefois qui compte sur les autres. On parlait des maraudes, c'est des quartiers dans lesquels les associations font des maraudes. Je pense que le fait, effectivement, ce que disait le journaliste, que être indifférent et considérer que c'est la personne d'après qui va demander si ça va, et pas, il vaut mieux qu'il y ait trois personnes de suite qui le demandent, même si celui qui est à terre vous rabroue en disant qu'il n'a pas envie de répondre, c'est toujours mieux. dans la tribune dont on parlait, j'évoquais qu'il y a une sorte de responsabilité citoyenne aussi à recréer. Je pense que reformer à la citoyenneté, la solidarité, la protection de l'environnement, on doit être tous acteurs de cela, et plutôt que l'indifférence. Je trouve cette histoire tragique, et je trouve d'une beauté illustrative du sens renversé. J'ai souvent vu cela, du SDF qui sauve et qui déclenche. Ça permet de, pardon, puisque c'est un photographe, de détruire un certain nombre de clichés. Toute personne à terre vaut la peine qu'on se penche sur elle. Toute personne à terre, qu'elle soit photographe mondialement connue ou qu'elle soit un SDF qui est sortant de prison.
Merci Mohamed, à tout à l'heure pour la Story Média. Demain, Émilie, le Premier ministre Jean Castex se rend au mémorial d'Auschwitz. Hier, le président Emmanuel Macron était à Oradour-sur-Glane.
Oui, village martyr dont les habitants furent massacrés le 10 juin 1944 par les SS. Emmanuel Macron y était accompagné du dernier témoin vivant de ce massacre, Robert Hébras, et il a appelé à ne jamais oublier.
Ceux qui ne peuvent se rappeler, ceux qui nous font courir le risque de l'oubli, nous engagent sur un seul chemin, celui qui nous ferait prendre le risque de répéter cette histoire.
Référence à peine voilée à Éric Zemmour, candidat qui a voulu réhabiliter le maréchal Pétain. C'est une première visite mémorielle avant le déplacement du Premier ministre au mémorial d'Auschwitz en Pologne demain. Il sera accompagné de ministres, du grand rabbin de France, du président du CRIF, de collégiens, de lycéens, mais surtout d'Élie Buzyn et de Ginette Kolinka, anciens déportés d'Auschwitz et rares survivants. Ils n'ont depuis de cesse de raconter cette page de leur vie, devenue une page de l'histoire. Ginette Kolinka était venue nous en parler à C'est à vous, c'était il y a 2 ans.
Donc vous allez régulièrement à Auschwitz accompagner de lycéens. On vous a suivi notamment.
C'est le plus grand cimetière du monde où il n'y a pas la trace d'une seule tombe. Ils se sont débrouillés pour nous mentir et encore après, ils ont encore menti. Pas une seule trace de leur forfait, nulle part. Par contre, si maintenant vous êtes venu, eh bien vous allez pouvoir en parler aussi. Vous êtes devenu notre mémoire et c'est ce qu'on vous demande.
C'est pour ça, moi, c'est la haine. La haine, moi, mon cheval de course, maintenant, c'est la haine. Attention, la haine, ça mène à des Auschwitz.
D'où l'importance de la mémoire. Avant Jean Castex, Édouard Philippe s'était rendu à Auschwitz l'an dernier, mais aussi le chef de l'État, François Hollande. C'était en 2015, 3 semaines après les attentats de janvier, la tuerie de Charlie Hebdo, mais aussi l'attaque de l'hypercachère. Écoutez ce qu'il disait la veille de ce déplacement.
La montée des actes antisémites est depuis plusieurs années une réalité insupportable. Comment après la Shoah? Comment après ce crime contre l'humanité? Comment l'antisémitisme peut-il encore ressurgir? Telle est la question.
5 ans plus tard, Emmanuel Macron se rendait à Jérusalem et dressait le même constat.
Aujourd'hui, dans nos démocraties, l'antisémitisme ressurgit, violent, brutal, il est là. Et avec lui, son cortège de haine et d'intolérance, avec lui, le racisme. L'antisémitisme, je le dis ici avec clarté, n'est pas seulement le problème des Juifs, non, c'est d'abord le problème des autres.
État des lieux confirmé aujourd'hui encore par cette enquête IFOP sur l'antisémitisme en France. 68% des Français juifs déclarent avoir subi des moqueries parce qu'ils étaient juifs. 20% ont été victimes d'agressions physiques.
Bonsoir Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, professeur à Sciences Po, Simone Rodin-Benzaken. Vous êtes directrice de l'AJC, l'American Jewish Committee pour l'Europe. Tous les deux, vous êtes à l'origine de cette deuxième étude réalisée par l'IFOP sur l'antisémitisme en France. La précédente avait été publiée, on s'en souvient, il y a 2 ans. Et le constat est toujours aussi préoccupant. Dominique Régnier, être juif en France, c'est avoir une vie différente de celle de ses compatriotes?
Oui, c'est vivre dans une sorte de régime d'exception. Vous citiez, c'était un chiffre particulièrement éclairant, 20% des Français juifs ont vécu une agression. Je dis, imaginons une famille, deux parents, trois enfants. Eh bien, un sur cinq, un des membres de la famille a été victime d'une agression antisémite. On a peur pour ses enfants, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur lorsqu'ils sont dans la rue, ils ont peur lorsque l'on voit les signes d'appartenance à la religion, ils les dissimulent du coup. Bref, ils vivent dans un État, dans un système politique qui n'est pas celui que moi, qui ne suis pas juif, je fréquente, où je peux aller à peu près librement, sans avoir à cacher ce que je suis et qui m'est cher. Donc c'est un autre régime d'existence. Et vous disiez à l'instant dans vos reportages, moi ça me glace, ça, les derniers témoins sont très âgés, ils vont avoir le temps de retrouver ces chiffres, de voir que ça n'est pas terminé, mais ça recommence. Toute leur vie qu'ils ont consacrée à témoigner, à expliquer tous les efforts qui ont été faits, eh bien ça continue. Ça recommence. On a peur pour ses enfants. Quand on est juif, on a peur pour soi. On doit se dissimuler. C'est une situation. Et les politiques sont intervenus. Mais finalement, nous faisons des mesures avec Simone Rodin-Metzaken. Nous faisons cette mesure depuis 2014, en fait. On a travaillé sur le sujet. C'est la quatrième enquête que nous faisons sur le sujet. Le constat, il est quand même toujours le même.
Ça s'est même généralisé. On parlait de la dissimulation, Simone Rodin-Metzaken. Ça s'est généralisé, le fait de dissimuler qu'on était juif ?
Oui, je pense que c'est en réalité, c'est devenu une sorte de normalité qui ne devrait pas être une normalité. Et effectivement, en fait, beaucoup de Français juifs ont intégré en réalité presque des réflexes de dire à leurs enfants de ne pas aller dans un endroit, d'éviter certains quartiers. Et donc, en fait, pour eux, c'est une normalité. Et ce n'est pas normal que ce soit une normalité.
Autre résultat édifiant, c'est l'école où l'antisémitisme est le plus fréquent. Beaucoup de ces enfants quittent l'enseignement public et là, le problème est bouleversant parce que l'école de la République laïque qui prône le vivre ensemble a totalement perdu cette bataille-là.
Je ne sais pas si elle a totalement perdu cette bataille-là, mais en tout cas, elle est en tout cas en train d'être perdue. Ça, c'est évident, parce qu'à partir du moment où, effectivement, le lieu de l'école est devenu le premier lieu de Français juifs qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qui ne portent pas de kippa, mais qui sont, voilà, qui sont pas visibles dans l'espace public, l'école est devenue donc le premier lieu pour des agressions antisémites, des insultes, etc. Et donc, effectivement, c'est un vrai souci. Il faut aussi savoir que quand on interroge les Français juifs, c'est surtout les jeunes. Entre 18 et 24 ans, qui racontent en fait des agressions physiques, presque un tiers, et les insultes, etc. Donc c'est effectivement cette jeunesse-là, finalement, qui depuis 20 ans connaît que cette réalité-là.
C'est un échec politique, Dominique Régnier ?
Je trouve que c'est un échec politique, parce que, comme Simone l'a dit, nous y sommes tous très attachés, l'école, c'est le creuset, ce ne sont pas que des mots, on doit s'y retrouver avec nos différences, nos parcours, nos belles particularités, et aujourd'hui c'est en train de devenir impossible, en tout cas pour certains de nos compatriotes c'est en train de devenir impossible. Quand vous voyez que les jeunes, nos jeunes compatriotes juifs sont particulièrement frappés à l'école publique, au sein de l'école publique par l'antisémitisme, alors d'un côté vous pouvez imaginer, nous avons des cours d'histoire, nous avons des commémorations, nous avons des récits sur ce qu'il ne faut pas recommencer, puis de l'autre côté vous le vivez dans votre chair parce que vous êtes juif en France aujourd'hui et que vous avez entre 18 et 24 ans. Mais c'est une espèce de dislocation totale du discours. Donc l'échec, il est profond de ce point de vue-là.
Avec la persistance des préjugés, on continue à penser, un Français sur trois, que les Juifs sont plus riches que la moyenne, un sur quatre, qu'ils ont trop de pouvoir dans la finance et dans les médias. Comment ces préjugés persistent-ils encore aujourd'hui ?
Alors effectivement, ça c'est la deuxième partie de l'enquête, donc, où on a demandé aux Français de identifier un certain nombre de questions, effectivement sur les préjugés. On voit vraiment que c'est au cœur de la société, mais je dirais quand même plus largement que le vrai souci est qu'il y a vraiment des poches au sein de la société française où l'antisémitisme est encore plus important. Alors effectivement, vous dites, je le vois, 24% disent que les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias. Il y a certains catégories dans la société française où c'est encore plus important. Mmh. Et notamment trois en particulier. La première, c'est les électeurs de Marine Le Pen et du Rassemblement national. La deuxième, c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Et la troisième, ensuite, c'est les répondants de confession et de culture musulmane, où effectivement, c'est également très, très élevé. Et on a identifié cette fois-ci une quatrième, ce sont ceux qui ont une sympathie pour les mouvements anti-vax.
Justement, les mouvements
anti-vax. Oui, justement, on les a vus ressurgir. Il y avait cette pancarte, par exemple, antisémite dans une manifestation cet été qui avait beaucoup choqué. La femme qui l'avait brandie à Metz a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi un tel amalgame? Vous disiez, Dominique Régnier, que l'antisémitisme est devenu un classique des antisystèmes, antipolitiques.
C'est ce qui les relie. On voit se lever depuis une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, dans les démocraties occidentales, une sorte de protestation radicale, ce qu'on appelle de l'antipolitique, ou des groupes protestataires qui mêlent extrême gauche, extrême droite, les réseaux sociaux, s'insurgent contre le système. Le point commun, c'est toujours ce passage pour l'antisémitisme. Le langage commun, c'est l'antisémitisme. Ce qui fait qu'on se comprend quand on est d'extrême-gauche alors qu'on parle à quelqu'un d'extrême-droite, c'est l'antisémitisme, etc. C'est cette espèce de langue commune, au fond, hein, qui les, à la fois qui les relie, qui les mobilise aussi et qui leur donne, avec leurs différences, qui peut les amener à s'opposer, mais qui leur donne, à un moment donné, une espèce d'ennemi commun contre lequel ils vont pouvoir se mettre en mouvement, dénoncer, menacer et puis même agresser.
Pour revenir sur les Français de confession musulmane qui ont été interrogés dans votre enquête, vous pointez le lien entre la pratique religieuse et les préjugés antisémites. En revanche, chez les jeunes musulmans, les préjugés semblent beaucoup moins présents. Deux chiffres, alors que 59% des plus de 50 ans de confession musulmane et pratiquants pensent que les juifs ont trop de pouvoir dans la finance, le pourcentage tombe à 40% chez les 18-24 ans. C'est un motif d'espoir de plus de raison.
Oui, effectivement, et c'est en tout cas la première fois qu'on l'a remarqué, comme disait Dominique, on a mené ces études à plusieurs reprises. C'est la première fois, effectivement, qu'on voit que sur certaines questions, sur certains items, ça ne concerne pas la question de la Shoah, de la compétition des mémoires, mais effectivement sur les préjugés, les juifs ont trop de pouvoir dans la finance, dans les médias, etc., on voit effectivement chez les jeunes français musulmans moins d'antisémitisme, et j'espère que c'est Il faut regarder plus loin, mais j'espère effectivement que...
Oui. Vas-y. Un autre chiffre qui nous a quand même donné de l'espoir, 20% des Français de confession de culture musulmane attribuent aux idées islamistes la cause de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est une merveilleuse nouvelle, si peut assister à ce levain, il y a la possibilité que des nouvelles générations, en réflexion, se mettent à prendre en charge cette absolument nécessaire reconfiguration de la nature, de la place de l'islam en France. On sait que l'islam a en France toute sa place, mais il faut sur ces sujets-là qu'on puisse collectivement agir. Les catholiques, moi je le dis souvent, ça, y compris à mes amis musulmans, je leur explique. Moi, je suis catholique de baptême et de tradition. Les catholiques ont appris leur rôle de l'antisémitisme. On l'a appris à l'histoire, on y a réfléchi. On me l'a appris, moi, dans les écoles, quand j'étais enfant, des écoles tenues par des religieuses. Elles me l'ont appris. Et il faut faire ce travail. On peut le faire avec eux, ils peuvent le faire eux-mêmes, mais c'est une espèce de, je dirais, de ligne d'espoir.
Martin Hirsch, une réaction?
Oui, quand on a mis en place le service civique, on avait le souhait de pouvoir mélanger des jeunes et leur apprendre la tolérance. Et quelques années après, on a fait une enquête sur des jeunes ayant fait leur service civique, des jeunes n'ayant pas fait leur service civique, en leur posant une question: est-ce que pour vous, l'autre, c'est une menace ou une opportunité? Ceux qui n'avaient pas fait leur service civique considéraient l'autre comme une menace. Ceux qui avaient fait leur service civique considéraient majoritairement l'autre comme une opportunité. Je crois beaucoup, vous parliez de l'école, donc l'école peut jouer ce rôle, mais il y a beaucoup d'expériences collectives ou communes, de brassage, de mélange, d'éducation, de formation, de confrontation à des gens qui n'ont pas la même religion, la même couleur de peau, la même, etc., qui ont un effet quand même absolument majeur pour faire une société.
Mais ça ne marche pas à l'école.
Oui, et c'est un sujet absent de la campagne électorale jusque-là.
Absent de la campagne.
Je pense qu'il y a une forme de désarroi chez des politiques.
Qui n'ont pas les solutions ou qui...
C'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. On ne peut pas, enfin, ça ne peut être qu'une cause majeure. Et ce qui a été dit, et l'enquête le montre, et ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle dans ces nouvelles un peu qui nous rendent moroses. La plupart des Français qui ont été interrogés considèrent que l'antisémitisme est le problème de tous les Français et non pas le problème des Juifs. Ça, c'est un point clé. Et on imagine bien que ce pays ne sera plus jamais le même, ne deviendra pas ce que nous aimons qu'il soit si l'antisémitisme continue de prospérer. Donc c'est un sujet qui transcende beaucoup de sujets, qui trame notre cité. On ne peut pas ne pas faire les efforts les plus grands, ni baisser la garde, ni changer de régime. Et nous sommes probablement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Moi, je termine là-dessus, mais je ne peux pas me résoudre à l'idée que des enfants ont peur d'être agressés, que leurs parents ont peur qu'ils soient agressés parce qu'ils sont juifs et qu'ils doivent dissimuler. Enfin, tous ceux qui nous écoutent, je pense, sont horrifiés par ce récit-là. Donc c'est absolument inacceptable.
Oui, j'aimerais juste revenir à cette note d'espoir, mais je pense qu'elle est vraiment très importante. Et on le voit vraiment depuis plusieurs années, le fait que les Français vraiment comprennent que ce n'est pas le problème des Juifs. Oui. Parce que, pas uniquement parce que ça concerne la société dans son ensemble, mais parce que je pense aussi que les Français ont compris que l'antisémitisme est finalement, on a beaucoup utilisé cette image du canari dans la mine de charbon, mais c'est-à-dire le symptôme, en réalité, d'un problème plus profond qui est en fait une sorte d'effondrement à venir pour une démocratie libérale. Et donc oui, je pense que les Français dans leur ensemble le comprennent et j'espère que les politiques également.
Merci beaucoup. Merci. Simone Rodin-Benzaken d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Ebeliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, plus d'un tiers des salariés d'EDF étaient en grève aujourd'hui.
Oui, même plus de 40% selon les derniers chiffres ce soir. Et c'est un sujet technique, mais qui vient directement percuter les débats que l'on a sur le pouvoir d'achat. Le 13 janvier dernier, le gouvernement annonce obliger EDF à vendre davantage d'électricité nucléaire à bas prix à ses concurrents, ce qui avait entraîné une chute de 14% de l'action EDF à la Bourse de Paris le lendemain. En fait, on demande à la compagnie de vendre de l'électricité à perte à ses concurrents pour limiter la hausse des tarifs de l'énergie. EDF devant aussi modérer la hausse de ses tarifs auprès de ses propres clients, bien sûr. Sauf que pour beaucoup, on fragilise l'entreprise. Audrey Payas a rencontré un syndicaliste EDF aujourd'hui.
On vient mettre un mécanisme qui vient conforter la notion de marché pour un bien non marchand qu'est l'électricité. Et ce mécanisme, il vient saccager l'entreprise EDF. Nous, on veut que les usagers aient une facture énergétique à bas coût. Les intentions qui sont affichées dans les médias un petit peu partout par les politiques actuellement, c'est pas celle-là. Tout ce qui est posé là en ce moment sur la table, ce pansement sur la jambe de bois du service public, c'est purement électoraliste. Les usagers, si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne revient pas sur la notion de marché, si on ne revient pas à l'intérêt général et au service public, cette hausse, ils vont la subir. Les électriciens et gaziers, ils ont toujours défendu leurs intérêts, bien sûr, mais aussi l'intérêt des usagers.
Près d'un salarié EDF sur deux en grève donc, et un regard bienveillant de la direction qui est opposée à ces mesures du gouvernement. Le PDG se rebelle, dit-on, alors que l'État est actionnaire d'EDF, rappelons-le, à plus de 80%. Du côté de la Commission de régulation de l'énergie, on est en désaccord, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour EDF.
Ce n'est pas vrai qu'on pille EDF, juste ils auront moins à gagner. Est-ce normal que le groupe gagne plus alors que le consommateur paye plus? On a un problème de prix sur le marché mondial, on a un problème de pouvoir d'achat du citoyen. Est-ce que EDF peut dire « Ah, j'aurais pu gagner 8 milliards et pendant ce temps-là, les entreprises ferment ?» Non, ce n'est pas possible. EDF n'est pas menacé de fermeture. Les investissements d'EDF ne sont pas menacés. L'EDF a un actionnaire extraordinaire qui est l'État depuis tout le temps, depuis la libération. Et l'État fera son devoir.
Alors le prix de l'électricité, des énergies, derrière le sujet technique, Dominique Régnier, on est en plein dans la campagne aussi finalement, la question du pouvoir d'achat.
Oui, la question du pouvoir d'achat qui est tout d'un coup a bondi en tête des préoccupations. Ça, ce sont les sujets qui enflamment une société, le sujet typique qui peut bouleverser un scrutin qu'on attendait se déroulant sous telle configuration et qui peut changer profondément. Et puis ce sont des sujets, on le voit ici pour l'énergie, sur lesquels les pouvoirs publics ont du mal hein, à agir dans le sens attendu par les citoyens, qui sont aussi des électeurs et qui sont aussi des consommateurs.
Oui, parce qu'il y a des marchés internationaux de, voilà, de l'énergie. D'ailleurs, il y a un autre enjeu politique là-dedans. On avait parlé de concurrence pour faire baisser les prix à l'origine.
Oui, enfin, aujourd'hui, il y a un contexte très particulier. Patrick Cohen, récemment, a expliqué comment marchait ce marché européen de l'énergie. Il y a un contexte très particulier qui est la reprise, le jeu russe aussi avec le gaz, enfin, beaucoup d'éléments. Mais à la fin, et ce n'est pas fini, hein, nous allons avoir des hausses qui vont sans doute durer. À la fin, je ne sais pas, je serais curieux de voir comment vont faire les politiques pour éviter que cette hausse se sente de manière significative.
Mais la fin, vous la mettez où, au mois d'avril ou après?
Ah, mais ça va continuer après, hein, c'est un sujet qui va durer.
Une vidéo et un rapport d'expertise cette semaine. On en sait plus sur la mort de Cédric Chouvia, c'était il y a 2 ans.
Oui, livreur de 42 ans, père de famille, mort suite à un contrôle de police à Paris. À l'époque, on a beaucoup parlé des techniques d'immobilisation de la police. Cédric Chouvia avait subi un plaquage ventral. Mais cette semaine, de nouveaux documents viennent étayer la thèse de la famille selon laquelle c'est le policier qui l'interpelle qui a tué le livreur. Lundi, une expertise médicale était versée à l'enquête. Selon cette synthèse, la morphologie de Cédric Chouvia qui était obèse à participer, je cite, à la survenue de l'arrêt cardiaque, mais ce sont bien les gestes des policiers qui sont retenus comme facteurs de décès. Pas de malaise avant la chute et une mort suivant une privation, je cite, très rapide d'oxygène au cerveau. Hier, Libération a également publié une vidéo des dernières secondes de vie de Cédric Chouvia. Les policiers savaient-ils ce qu'ils faisaient? C'est le téléphone de Cédric Chouvia qui filmait. Difficile d'imaginer en tout cas qu'il n'ait pas entendu les mots « j'étouffe » répétés à 9 reprises. On entend aussi un des policiers dire « c'est bon, lâche-le ». Cet après-midi, j'ai contacté le père de Cédric Chouvia, Christian Chouvia, qui avait déjà eu, lui, accès à cette vidéo, qu'il considère accablante.
Le fait de lire l'expertise, pour moi, ça a été plus impressionnant, plus chaud. Pour te dire, j'ai craqué, j'en ai pleuré, parce que j'avais l'impression de revivre ce que Cédric vivait. On entend « j'arrête, j'étouffe, vas-y, j'arrête ». Il y a même un des trois policiers qui est au-dessus de lui, un des trois policiers, qui lui dit « laisse tomber, c'est bon maintenant, ça va, c'est bon, lâche-le ». Même ça, il ne l'a pas entendu. Il est mort sur le tarmac parce qu'ils ne l'ont pas réanimé. Ces 4 individus, pour moi, ils ont chacun leur part de responsabilité. En aucun cas, on a la haine ou on a la colère contre la police. Ce n'est pas notre but. On a la colère et la haine envers les tueurs d'enfants, les tueurs de mari et les tueurs de père.
Dans cette affaire, 3 policiers sont mis en examen pour homicide involontaire. Une autre policière est placée sous le statut de témoin assisté. Une reconstitution doit être organisée prochainement. Il s'agira de savoir si les policiers étaient en mesure ou non d'entendre les cris d'agonie de Cédric Chouvia.
Les professionnels de santé alertent à nouveau sur les risques du gaz hilarant.
Oui, le protoxyde d'azote que l'on trouve dans le commerce extrêmement facilement en réalité, puisque ce sont ces cartouches de gaz qu'on utilise dans les siphons à chantilly en cuisine par exemple. Alors ce gaz hilarant est à la mode chez les jeunes pour ses effets planants et euphorisants.
On parle d'addiction, surtout dans le cadre du protoxyde d'azote, c'est un mésusage, usage excessif. C'est quand les gens ils se disent, bon, ils ont fait une fois de temps en temps dans une fête, mais après ils se disent, ah, il faut qu'on prévoie la fête, vraiment qu'on achète les cartouches. Donc là, automatiquement, ça veut dire qu'il y a une escalade dans la recherche du produit.
Sauf que de nombreux médecins en soulignent aussi les dangers. Vous voyez là un rapport de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, qui souligne les risques d'asphyxie, de perte de connaissance, de brûlure sur une simple prise. Et si on en consomme régulièrement, le protoxyde d'azote peut attaquer le système nerveux.
Parfois c'est réversible, mais malheureusement quand les troubles sont particulièrement sévères, on a des lésions irréversibles du système nerveux et des atteintes de la motricité, des mains, des pieds, des troubles sensitifs qui peuvent être relativement importants.
Alors dans cet aveu, nous avions recueilli le témoignage d'un revendeur qui circule en Ile-de-France la nuit pour distribuer, revendre du protoxyde d'azote. Forcément, il se frotte les mains.
On vend tout ce qui est produits épicés, boissons, cigarettes, confiseries, notamment les ballons. Et on fait ça dans toute l'Ile-de-France. De 22h30 à 6h du matin, et ça marche pas mal. Les ballons, c'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires, c'est 60% de mon chiffre d'affaires.
Témoignage aussi de ce consommateur qui reconnaît que ces petites capsules de gaz que l'on respire dans un ballon donc, ne sont pas si anodines.
J'ai commencé à consommer juste avant le confinement, et donc c'était en soirée à Quimper. Ça donne un effet euphorisant pendant quelques minutes, puis après, c'est pas terrible. Donc très vite, j'ai quand même vu certains symptômes, dont la perte de mémoire immédiate. Ça m'arrivait de perdre la mémoire très vite et d'oublier de faire des choses du quotidien alors que ça paraît complètement évident. Et sinon, la deuxième, qui est quand même assez importante, c'était les troubles de l'érection.
Drogue à la mode chez les jeunes, dit donc l'ANSES, les signalements en forte hausse. Ce sont des cas de jeunes adultes surtout. Et vous allez voir des vidéos de jeunes adultes célèbres. Je vous montre cette vidéo de joueurs du club d'Arsenal en Angleterre. On y reconnaît les joueurs comme Lacazette, Guendouzi. La vidéo date de 2018, mais je vous la montre parce que la Ligue 1 s'inquiète déjà de cette mode chez ses joueurs aussi. Sujet tabou dans les clubs, nous dit-on, une mode qui aurait pris au moment du premier confinement en 2020. Martin Hirsch, c'est cette communication de l'ANSES sur la multiplication des cas. Vous voyez des jeunes arriver sous protoxyde d'azote ou avec des séquelles à l'hôpital?
Oui, oui. Mmh. Et on voit surtout, hein, depuis le premier confinement, effectivement, un nombre de jeunes ayant des troubles psychiatriques et des difficultés de prise en charge, mais une épidémie tout à fait considérable, ce qui est très, très inquiétant. Donc ce n'est pas simplement ces addictions-là, mais il y a un sujet aujourd'hui absolument majeur qui inquiète tous les professionnels et qui, je pense, inquiète aussi tous les parents. On est face à un phénomène d'une ampleur qu'on n'avait jamais connue.
Sur la dépression des jeunes, on passe à, et on conclut 5 sur 5 avec un débat qu'on n'avait pas vu venir.
Même. Oui. Et en quelques notes, on sait où on est. Le grand classique de Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, vous allez l'avoir dans la tête ce soir, c'est sûr, on connaît tous le film culte de 1937, bien sûr, le dessin animé culte. Alors regardez, Walt Disney avait même reçu un Oscar spécial avec la statuette et 7 petits Oscars nains à côté. Disney prépare en fait une version filmée de Blanche-Neige. La production doit démarrer, mais est-ce que ça passe encore en 2022, quand Disney rencontre Game of Thrones? La question est posée par Peter Dinklage, lui-même nain, très connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans la série d'Heroic Fantasy Game of Thrones. Il répondait à une interview et il dit tout le bien qu'il pense de ce projet de nouveau Blanche-Neige et les Sept Nains.
There's a lot of hypocrisy going on, I gotta say, from being somebody who's a little bit unique. Well, you know, it's really progressive to cast a Latino actress as Snow White, but you're still making that backward story of seven dwarves living in a cave. What the f*** are you doing, man? We, you know, have I done nothing to advance the cause?
Alors, est-ce que Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est une offense aux personnes atteintes de nanisme? Disney a répondu à l'acteur. Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente du récit. Nous avons consulté des membres de la communauté du nanisme. Ils pourraient, et là je parle au conditionnel, Disney pourrait avoir changé les nains en créatures magiques. À suivre donc, on va juger sur pièce. Dominique Régnier, on va cancel, comme on dit, on va cancel Blanche-Neige.
Oui, non, mais c'est, en même temps, c'est plus très surprenant. J'ai appris que récemment, dans une université britannique, on avait cancel de 1984 de Orwell, en considérant que certains passages du livre étaient choquants. Donc on peut dire que nous avons fait là pratiquement tout le parcours possible dans cette évolution.
Oh, il doit rester 2-3 choses peut-être encore à...
On va très loin quand même.
À canceler.
Regardez
ou à
annuler. Bien vos DVD du coup.
Voilà. Et ne jouez pas les grands jeux.
Merci beaucoup.
Ça me plaît, non.
Alors il en manque un encore. Je vais jouer au prof. Il en manque 5. Merci Dominique Régnier. Directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'être venu nous parler de cette étude sur l'antisémitisme en France en 2022. Martin Hirsch, directeur général de la PHP et président de l'Institut de l'engagement, avec des propositions pour rebooster la démocratie. Merci d'être venu ce soir. Oui, dans un instant, au voleur à l'assassin, au meurtrier, juste au ciel, je suis perdu, je suis assassiné. Harpagon, Lavare, Molière, c'est Michel Boujenah qui l'interprète sur scène. T'avais pas reconnu, Mathieu, m'avait pas reconnu. Et Pierre Lemaitre est également notre invité avec son nouveau roman, Le Grand Monde. À tout de suite.